artisans d'un autre monde.
Commerce équitable.
Équité.
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 Commerce équitable.
Solidarité.
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 Commerce équitable.
Égalité.
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 Commerce équitable.
Citoyenneté.
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 Artisans d'un autre monde.
Bonjour et bienvenue dans l'émission mensuelle animée par les bénévoles d'Artisans du Monde Évreux, association de commerce équitable. Venez nous voir dans notre boutique à Évreux, place de la mairie.
Si le contenu de nos assiettes révèle nos goûts et nos préférences gastronomiques, il est aussi porteur d'indices sur les impacts générés par nos comportements en matière d'alimentation. Claudine et Sylvie vont nous les détailler dans la séquence qui suit. Mais si on regarde la question de l'alimentation de façon encore plus générale, on peut s'interroger sur les conséquences de toutes ces denrées qui, de la production à nos poubelles, ne sont pas consommées. On parle de gaspillage alimentaire, mais c'est un sujet que nous avons déjà traité dans une de nos émissions. Alors, peut-être ne donner qu'un seul chiffre. Chaque année, la quantité d'eau utilisée pour produire ces denrées qui ne seront pas consommées est équivalente au débit annuel de la Volga. Ça fait réfléchir. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'entends ça, je me sens pas dans mon assiette.
Le 18 mai, dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, une conférence citoyenne s'est tenue sur le thème de « Notre assiette peut-elle changer le monde ?». C'était une conférence en visioconférence, bien sûr, animée par Denis Chessoux, journaliste animateur France Inter, qui est bien connu par ceux qui écoutent cette radio, pardon à principe actif. Le débat était long, 1h40, mais passionnant. Sylvie et moi étions à l'écoute et voilà les lignes essentielles que nous allons essayer de vous présenter. Alors, un yaourt, un morceau de poulet, une tasse de café, un carré de chocolat, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, nos aliments du quotidien ont leur part d'ombre. Est-ce que tu sais toujours qui a produit et ce que tu manges ?
Ben non, évidemment. Bon, j'essaie de m'informer sur les produits que j'achète. J'essaie d'acheter dans la mesure du possible des produits locaux, bio, équitables. Mais bon, les produits à bas prix qui envahissent nos rayons sont souvent générateurs d'extrême pauvreté et destructeurs pour la planète.
Une des intervenantes, Julie Stoll, qui est déléguée générale du commerce équitable France, a rappelé au début de la conférence que notre alimentation dans le monde entier est basée sur une agriculture qui n'est pas durable et qui contribue à un certain nombre de problèmes. Lesquels ?
Ben oui, ces problèmes, entre autres, ce sont le réchauffement climatique et puis l'effondrement de la biodiversité. Alors, en fait, on a près d'un milliard d'humains qui souffrent de la faim, et le comble, c'est que dans la plupart des cas, ce sont des paysans. Et un autre paradoxe, c'est que sur la planète, on a aussi beaucoup de gens qui mangent trop ou qui mangent mal.
Alors, une autre intervenante de la table ronde est directrice de l'OPSOCO, Observatoire de la consommation. Elle s'appelle Gwenaëlle Goltogo, pardon. Qu'est-ce qu'elle t'a appris ?
Alors déjà, cet observatoire de la consommation, là, son rôle, c'est de faire des enquêtes pour voir ce qui émerge comme habitude chez les consommateurs. Donc elle a d'abord fait un rappel sur ce qui s'est passé au XXe siècle. On a eu une production de masse, une consommation de masse. Tout ça, ça nous a permis de sortir de la pénurie et ça a amené du confort pour la majorité des gens. Mais maintenant, nous sommes arrivés à une hyper-consommation et ça nous rend pas heureux et ça nous amène même à une mauvaise santé.
Alors, les enquêtes montrent que les Français aspirent à changer leur façon de consommer, mais il existe des freins.
Oui, ce qu'on entendait avant, c'est le bio, le commerce équitable, ça c'est des trucs de bobos. Mais ça, c'est devenu un stéréotype dépassé. Parce que maintenant, les enquêtes montrent que près de la moitié des Français est en mouvement, en fait, pour changer les comportements alimentaires. Mais bon, il y a beaucoup de contraintes qui freinent ces changements. Donc l'idée, c'est de reprendre le contrôle de son assiette, parce que ça redonne du sens. Et puis, en fait, quand ça concerne l'alimentation, ça concerne aussi l'environnement, Mais on peut aussi dire que ça concerne le patrimoine, parce qu'en France, se nourrir, ça fait partie du patrimoine, en fait. Nous sommes le pays de l'OCDE qui passe le plus de temps à table.
Alors, certains sont réfractaires, je pense, au changement, hein.
Oui, c'est vrai, il y a toujours des Français qui sont réfractaires au changement, mais bon, quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui font attention à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes, pardon. Et puis, c'est pas seulement, en fait, ils portent aussi attention à ce qu'ils mettent sur leur peau, maintenant, et puis sur l'air qu'ils respirent. Et bon, un des freins, en fait, pour développer le bio, l'équitable, etc., c'est le prix. Les Français veulent bien faire un effort, mais ils veulent pas être tout seuls, en fait. Ils attendent que les pouvoirs publics encadrent, réglementent, et ils attendent aussi que les entreprises s'engagent, qu'elles innovent, qu'elles informent aussi le consommateur. Donc le processus est difficile, mais des changements s'opèrent. Bon, je peux donner un exemple, c'est le vrac, il a connu un développement rapide. En fait, parce qu'il y a plusieurs aspects avec le vrac, t'as le côté anti-gaspille, mais aussi un côté écolo, et puis un aspect économique.
Alors, une autre intervenante s'est exprimée, elle s'appelle Estelle Dubreuil, elle est coordinatrice à faire un monde équitable. Et elle, quels étaient ses propos?
Alors elle a parlé d'une prise de conscience accrue. Et elle dit que c'est surtout les jeunes, en fait, qui sont préoccupés par ce qui se trouve dans leur assiette. Ils se posent des questions sur l'origine, sur la traçabilité des produits. Et en gros, ils veulent mettre de la cohérence dans leur alimentation.
Alors, ce mouvement national Faire un monde équitable a lancé une campagne, je crois. Tu peux nous en parler?
Alors cette campagne, ils l'ont appelée l'addition. Et en gros, ça consiste à amener les consommateurs à parler avec les restaurateurs. En gros, toi, c'est quand tu vas manger au resto, bah faut que tu montres aux professionnels que tu es sensible à l'origine des produits et à la façon dont ils sont cultivés et fabriqués. Et ça, si le restaurateur il sait que ça t'intéresse, il va plus aller vers ses produits. Et l'association, là, le Faire un monde équitable, en fait, elle soutient les restaurateurs. Et là, le but, c'est que la consommation responsable et engagée devienne la norme.
Et qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui nous dit à qui peut-on faire confiance?
Ah oui, ça, c'est un problème, en fait. Il y a tellement de labels qu'on peut s'y perdre. Alors, il existe un guide très pratique qu'on peut trouver en ligne. Il s'agit de la boussole des labels. Je l'ai imprimé, d'ailleurs, je vais le mettre à la boutique Artisans du Monde à Évreux. Et on y trouve un tableau avec tous les labels bio et équitables qu'on peut trouver en France. Et puis chaque critère est noté en rouge ou en vert, en fait, et ça va se décliner, en fait, entre les garanties sociales, les garanties environnementales, le bien-être animal, etc. Enfin, il y a plein de critères.
Non, ça c'est intéressant et ça sera très utile. Revenons à notre assiette, elle est aussi porteuse de solutions. Manger plus sain, plus juste, plus vert, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Que proposent les acteurs du commerce équitable?
Alors, pour répondre à cette question, on a écouté aussi Myriam Ezine. Alors, Myriam, elle est responsable communication et animation du réseau de la Fédération Artisans du Monde. D'ailleurs, tiens, on va écouter un petit extrait de la conférence quand elle parle du travail qu'on peut faire avec les municipalités.
Écoutons-la.
On travaille donc d'une part pour ce qui est de changer les règles. C'est vrai qu'on parle souvent des institutions internationales, du gouvernement français, mais il y a plein d'autres acteurs qui peuvent changer la donne de façon assez importante. Et l'un de ces acteurs ou actrices, eh bien, ce sont les communes.
Oui.
Et donc, en fait, les communes, ce qu'elles vont faire, c'est, il faut avoir un chiffre clé en tête. Hein. À l'heure actuelle, les communes, c'est 47% de la commande publique. Bon, on se dit d'accord. Mais en fait, c'est 78 milliards d'euros en 2018. Donc là, on n'est plus sur de la menu monnaie, je vais y arriver. On est vraiment sur des budgets qui peuvent changer la donne de façon très importante. Et donc, à l'échelle d'un territoire, c'est important de se rendre compte, et là, Estelle aussi en parlait, mais il y a plein d'acteurs, plein d'organisations qui s'investissent et qui, en fait, réinventent nos façons de nous nourrir et nos façons de produire notre alimentation. Et donc, à ce titre, eh bien, l'enjeu, ça va être de réussir à diffuser cette vision de l'alimentation comme une force transformatrice de nos sociétés, de réussir à diffuser cette vision auprès des municipalités, notamment.
Je sais plus
plus sur quel pied danser. Plus ne pousse sur ma terre, même les oiseaux ont crevé. Plus assez de vers de terre, je sais plus sur quel pied danser. Plus ne pousse sur ma terre, mon sang toi même stériliser les pommes de terre. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. Les pesticides, les engrais ont pollué les rivières. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. Les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. L'aéroport veut pousser, puis je suis pas aux têtes de l'air. Je sais plus sur quel pied danser, la saffaire fait ses affaires. Ils sont m'exproprier pour construire un parc center. Danser, danser, sur quel pied, quand dans l'assiette, c'est la lumière. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui ne veut pas s'en faire. Danser, danser, sur quel pied. Je sais plus sur quel pied danser, plein de poux sur ma terre. Mes sols sont contaminés aux particules nucléaires. Je sais plus sur quel pied danser, j'en ai 400 depuis hier. Puis j'ai jamais su danser, mais je danse parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui veut pas s'en faire. Danser, danser.
Donc la vision de Myriam, c'est de dire qu'il faut apporter donc une vision internationale de lutte contre les inégalités et connecter les préoccupations de la municipalité avec la vision de solidarité internationale. En fait, il faudrait envisager le territoire comme un tout connecté à tous les autres territoires.
Et donc, revenons à la base. Une commune qui s'engage pourrait-elle être labellisée ?
Oui, tout à fait. En fait, le label territoire de commerce équitable, il récompense les collectivités qui s'impliquent sur la question du commerce équitable, alors par des achats publics, les cantines scolaires, etc.
Alors, nous sommes toujours dans la relation de cette conférence, et il y a eu d'autres interventions dont tu veux parler, je crois, notamment une étudiante.
Oui, une étudiante, elle s'appelle Maïta Palu, donc c'est une étudiante à l'ISIT, en relations internationales. Et en fait, elle a expliqué qu'ils ont créé une association de commerce équitable, et bah avec cette association, ils ont eu un peu de mal, mais ils ont fait pression sur l'administration, ils ont réussi à introduire le café équitable dans les machines à café, et puis à la cafétéria.
Alors, je crois qu'il y a eu aussi la fondation Nicolas Hulot qui est intervenue.
Oui, alors Amandine Le Breton, avec la fondation Nicolas Hulot, c'est quelqu'un qui se bat pour améliorer la restauration collective. Donc elle constate qu'il y a vraiment un fossé entre la société qui défend le changement dans les comportements alimentaires et les pouvoirs publics, en fait, qui avancent vraiment pas beaucoup. La place des cantines dans le mieux manger, bah là, elle voit que les résultats sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu, en fait. Pour avoir des repas sains et durables dans la restauration collective, elle dit qu'il faudrait vraiment accompagner le secteur. Il faudrait une aide financière, mais aussi un grand besoin de formation pour mettre en place des légumeries, pour introduire des plats végés dans les cantines, pour former les cuisiniers pour qu'ils apprennent à travailler les produits bruts et les produits frais.
Mmh. Elle a parlé aussi, je crois, de réduire les pesticides.
Ouais, c'est ça. Ils ont constaté que, à la Fondation Nicolas Hulot, là, que l'État, chaque année, consacre 23 milliards d'euros au système agricole et alimentaire. Mais sur ces 23 milliards, il y a seulement 1% qui a un impact sur la réduction des pesticides. Donc les politiques publiques devraient vraiment accompagner les agriculteurs, et c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, il y a une grande part, il y a 45% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 6 ans qui viennent. Donc on peut se demander ce que vont faire leurs successeurs, et est-ce qu'ils vont être aidés.
C'est sûr que 6 ans sans aide, ils risquent de baisser les bras. On approche de la fin là, très intéressant aussi. Deux agriculteurs qui étaient sur le site, mais en vidéoconférence, ont témoigné. Alors, un des relations nord-nord et l'autre nord-sud. Alors, on commence peut-être par nord-sud.
Oui, c'est ça. Le premier qu'on a entendu, il s'appelle Pierre-Alexandre Hubert. Donc, lui, il est parti d'une entreprise 100% familiale et il s'est lancé dans le commerce nord-sud, en Inde et en Indonésie. Alors notamment dans la production du sucre de fleurs de cocotier, ça permet de lutter contre le surendettement des paysans. Et puis il a aussi soutenu, en fait, avec ce commerce équitable, ça a soutenu d'autres opérations, alors des projets éducatifs, développer des infrastructures. Et ça a aussi permis un truc important, c'est la stabilisation du prix du sucre de coco.
Et le deuxième, donc dans les relations nord-nord, il s'appelle...
Alors le deuxième agriculteur qu'on a entendu, c'était Franck Bluteau. Alors lui, il est en Vendée et il produit du blé et des légumes secs. Et en 2013, il a fondé la CAVAC. C'est une coopérative qui, aujourd'hui, elle s'est tellement développée qu'ils ont 3500 adhérents. Et bah, eux, ils font du commerce nord-nord. Et dans la coopérative, il y a 20% en bio. Et la particularité, en fait, de leur coopérative, c'est qu'ils travaillent par contrat. En fait, ils s'engagent sur un volume pour avoir un prix fixe. Et ça, c'est une nouveauté en agriculture conventionnelle. Apparemment, il dit que ça se fait pas de s'engager sur un volume. Mais ce prix contractualisé, en fait, ça permet à l'agriculteur d'avoir un salaire un peu plus décent. Et ça permet aussi, tout ça, de booster l'agroécologie.
Et ça rejoint donc l'idée de Julie Stoll, pour aider justement ces agriculteurs à des projets, pour présenter des projets...
Oui, elle a des idées. En fait, elle dit que si on voulait vraiment faire développer le bio et l'équitable, il faudrait faire des actions fortes. L'État pourrait décider de faire des bonus-malus fiscaux. Par exemple, réduire la TVA pour le bio et l'équitable. Ça permettrait de développer vraiment.
Bien, alors là, nous avons essayé de condenser, ce qui n'est pas facile. J'espère qu'on vous a pas trop assommé avec tous ces chiffres. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que reprendre le contrôle sur notre assiette, c'est pas un acte qui est centré sur soi-même, mais au contraire, c'est une réflexion sur notre société pour qu'elle soit plus équitable. Merci.
Farming just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da. body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. See it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Le groupe Éducation intervenait dans deux classes de l'école primaire d'Arnières. Les meilleurs moments de cette sensibilisation, épisode 1.
Alors bonjour.
Bonjour.
Nous sommes bénévoles dans une association qui s'appelle
Artisan
du Monde.
Donc c'est vous qui avez créé les poubelles à recycler ?
Ah non.
Non, nous on ne travaille pas dans le recyclage des déchets. Je vais demander aux trois personnes du premier rang, et vous deux, de venir vous mettre les uns à côté des autres ici. On va supposer qu'ils représentent toute la population de la planète. On dira 100% de la population, puisque c'est tout le monde. Si chacun d'eux représente le même nombre de personnes, il va représenter quel pourcentage? Tu dis
20%.
On va supposer que cette baguette représente toutes les richesses de la planète. L'or, les diamants, les champs, le blé qu'on vend, les voitures, tout ce qui s'achète et se vend sur la planète, toutes les richesses de la planète, on va supposer qu'elles sont dans cette baguette. Supposons, on peut rêver, supposons qu'on vive dans un monde idéal. Si sur la planète, les richesses étaient réparties de façon juste, équitable, combien de je devrais faire de parts dans la baguette?
5.
5 parts différentes ou égales?
Égales.
5 parts égales, j'essaye. Ah, non, finalement, c'est pas comme ça la réalité. Dans la réalité, tous les gens ne possèdent pas les mêmes richesses.
Comme les Africains, comme ceux qui habitent dans l'Afrique.
Tu veux dire que sur notre planète, il y a des gens?
Il y a des gens pauvres.
Pauvres.
Riches.
Et d'autres riches?
Normales.
Normaux et
millionnaires.
On va supposer que tu représentes les 20% les plus riches, les 20% un peu moins riches, et puis tu représentes les 20% les plus
pauvres.
Au fait, puisqu'on a partagé en 5, ça fait quel pourcentage de richesse dans chaque morceau?
20%.
Oui. À votre avis, les 20% des personnes les plus riches possèdent quel pourcentage des richesses mondiales, puisqu'ils sont les plus riches? Combien il faut que j'en donne de morceaux pour les plus riches?
23.
Combien?
3.
Ah, 3 morceaux. Allez, les forts en calcul, ça fait quel pourcentage 3 morceaux? 60%. Donc tu penses que les plus riches ont 60% de toutes les richesses. Qui pense que c'est plus? 1, 2, 3, 4, 5. Qui pense que c'est à peu près 60%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui pense que c'est moins? j'en vois deux. Si on faisait le total, on a perdu du monde en route. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. On va voir maintenant la réalité. En silence, vous allez compter, parce que je vais vous montrer, mais uniquement avec les morceaux de pain, combien possèdent réellement les 20% les plus riches sur la planète. Je suis pour le moment à quel pourcentage des richesses? Je suis à 80%. 90%, 95%. Donc, rien que cette information méritait qu'on se déplace, les 20% les plus riches sur la planète possèdent 95% des richesses. Il reste donc
5%.
Ces 5% de richesses là, c'est pas beaucoup hein, par rapport aux 95. C'est pour combien de personnes? Pour tous les autres, c'est-à-dire quel pourcentage? 20 plus 20 plus 20 plus 20. 80%. Ben les 80% qui restent, ils se partagent ça. Et à votre avis, qu'est-ce qui reste pour les 20% les plus pauvres? Pardon?
Des miettes.
C'est le cas de le dire.
Alors c'est le cas de le dire. Les miettes, c'est à peu près 1% des richesses. Alors on va s'arrêter là, mais juste vérifier les deux informations importantes que vous avez essayé de mémoriser, parce qu'on est venu pour ça entre autres. Les 20% les plus riches possèdent 95% des richesses, alors que les 20% les plus pauvres possèdent
les miettes,
et on a dit une miette, c'est à peu près
1%.
Quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Un mot, en un seul mot.
Injustice.
Je
vous mets tout ensemble. Inégalité.
Alors, donc d'après vous, c'est injuste et illégal.
Oui.
On est tous d'accord là-dessus.
Oui.
Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la situation ne soit pas telle que vous l'avez vu, ne soit pas illégale, ne soit pas injuste? Oui. Il faudrait que les riches donnent aux pauvres.
Que les riches ne se prennent pas non plus pour les plus forts, pour les plus grands.
Oui. Oui.
Il faudrait partager.
On est d'accord?
Oui.
Ça serait bien de partager. Si on partage, on fait preuve de quoi?
De gentillesse.
De gentillesse.
De fraternité.
De fraternité, c'est pour ça que j'ai mis ça en dessous.
De courage.
De courage, oui. Je vous aide un tout petit peu? Ça commence par un S.
Madame, moi je mettrai un O après le S.
Oui. De solidarité. Très bien.
Dressed out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go. God bless her. If the devil don't catch her, wherever she may be, she can search the whole wide world all over, but she'll never find a hot trombone player like me. Hidey, 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 ho!
Hidey, 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 ho!
Hidey, 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 ho!
Hidey, hidey, ho!
Hidey, hidey, ho! So sweet, so cold, so fair. Hidey,
so sweet, so cold, so fair.
La classe a visionné un reportage concernant une lycéenne qui participe à des maraudes.
Alors, il s'agit de quoi, là ?
Oui. J'ai une fille qui a 15 ans et qui donne des boissons chaudes, des vêtements aussi à des sans-abri.
Oui, c'est ça.
À l'aide des personnes qui sont en difficulté.
Quel type de difficulté ?
Elle aide les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Mais où est-ce qu'elle rencontre les personnes qu'elle aide ?
Dans la rue ?
Dans la rue. Donc probablement ?
Des sans-abri ou des SDF.
SDF, qu'est-ce que ça veut dire le sigle SDF ?
C'est des gens qui vivent dehors.
Sans domicile. Voilà, à vous deux, c'est bon.
Et comment ça s'appelle, ce
que vous avez entendu parler, il y avait un mot au début du reportage, la maraude.
Alors, est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire en regardant le reportage ? Que ça veut dire, la maraude ?
Moi, j'ai compris ce que ça veut dire parce que ma mère a déjà été maraudée.
Oui, c'est la période de faire sourire les gens, rigoler avec eux, parler avec eux.
Ça coûte rien de parler avec les gens et de sourire aux gens. Voilà quelqu'un qui fait preuve de
solidarité,
de bienveillance, de fraternité.
Les élèves réagissent maintenant à une autre vidéo impliquant un boulanger et un SDF.
Est-ce que vous allez me dire ce que vous avez compris ?
Que sa boulangerie, il l'a un peu sauvé parce que il était sans abri, du coup, ça l'a aidé à s'abriter. Il se lève tôt le matin pour préparer les croissants, etc.
Donc, le boulanger a aidé un sans-abri.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu entraide ? Est-ce que le sans-abri a aidé le boulanger ?
Oui, oui.
Est-ce que vous avez entendu au début de l'histoire dans quelles circonstances il l'a aidé ?
Il l'a aidé parce qu'il lui a sauvé la vie.
Il lui a sauvé la vie. Le sans-abri a aidé le boulanger et le boulanger lui a offert un travail et puis après
un travail et un domicile aussi.
Et un domicile. Et la boulangerie, pour quel prix ?
Zéro.
Un franc symbolique.
À un moment, le monsieur, il a dit que ce qui l'importait, c'était pas l'argent, mais c'était qu'il était heureux. Et je suis totalement d'accord avec lui.
Oui, moi aussi.
Moi aussi,
on va
vivre sans l'argent malheureusement.
Merci. Ça, on va se souvenir de ton témoignage.
Alors, vous avez vu là deux exemples, il y en a plein d'autres, hein, de solidarité. Est-ce que vous connaissez des associations qui travaillent autour de la solidarité ?
Les Restos du Cœur.
Les Restos du Cœur, je pense que tout le monde connaît. Nous. D'accord. Artisans du Monde, alors, pas moi. L'association que je représente, Artisans du Monde. Oui.
Tous unis contre la vie chère.
Tous unis contre la vie chère.
C'est vrai, c'est comme
pour le père. Je suis pas certaine que ce soit une association de bénévoles.
Le père.
Qui fasse de la solidarité.
L'idée aussi, il y a pour la vie chère.
Quoi d'autre ?
La Croix-Rouge.
La Croix-Rouge, voilà. Ça, je pense que tout le monde connaît aussi.
Oui,
vous savez, dans les hôpitaux, il y a des services de pédiatrie qui accueillent des enfants. Parfois, il y a des gens qui viennent faire un spectacle. En fait, c'est une association qui se déplace dans l'hôpital pour distraire des enfants qui sont malades depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est la solidarité ou pas?
Oui. Pour moi, non, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tout seuls. Enfin, il y en a beaucoup qui sont à plusieurs.
Mais vous n'avez pas compris la solidarité, Yann?
Si.
Ben non.
Ben oui, en quoi ça les aide?
Ben, ça leur remonte le moral.
Ça leur remonte le moral, voilà.
Ouais.
Comment?
À oublier leur maladie.
Exactement, maladie. Voilà. Par exemple, aller rendre visite à des personnes âgées dans les EHPAD.
Il y a des gens aussi qui vont aider certains enfants à leurs devoirs.
Par exemple, à Évreux, est-ce que vous connaissez un magasin qui s'appelle IDEVET?
Oui, c'est des vêtements et après ils revendent.
Quand on a des vêtements qu'on n'a plus envie d'utiliser, plutôt que de les mettre à la poubelle, on les donne à IDEVET.
On peut les donner à des gens.
Oui, on peut les donner à d'autres.
Oui.
Avec ces vêtements, il y a des gens qui travaillent chez IDEVET. C'est des gens, quelquefois, qui avaient du mal à retrouver du travail. Donc, ça leur donne du travail. Ils vont trier les vêtements et ils vont être vendus. Mais à un prix tout petit pour des gens qui, eux, n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, vous voyez, ça fait de la solidarité à plein de niveaux.
Quand on collecte les bouchons, les gens ils sont handicapés, quand ils donnent des bouchons, ça les aide.
Donc vous voyez qu'il y a plein de formes de solidarité. Hein.
On peut faire plein d'actes de solidarité tous les jours, en fait. C'est possible d'être solidaire.
Mais oui.
On peut être solidaire partout.
On va vous demander maintenant de réfléchir, parce que je suis sûre que vous, soit vous avez bénéficié de la solidarité de quelqu'un, soit c'est vous qui avez été solidaire pour quelqu'un, soit vous avez vu des gens être solidaires.
J'étais partie en ville avec ma sœur au cinéma et sur le passage, j'avais croisé un SDF et on avait 30 euros pour aller au cinéma et nous acheter ce qu'on voulait. Et j'ai donné 20 euros au SDF.
D'accord, donc ça c'est un acte de solidarité. Donc c'est toi qui as donné de la solidarité, d'accord?
Un jour devant Lidl, j'ai vu un monsieur et on est allé dans Lidl. On a pris un sandwich et après on l'a donné au monsieur. Une fois, on avait un SDR près du Carrefour City à Évreux. Puis en fait, il est venu se réfugier chez nous parce qu'on était en appartement avant. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un de bizarre qui traînait autour de lui.
Ah, ouais.
Puis on en a connu un autre. Il habitait dans une tente. Parce que quelqu'un lui avait donné une tente, puis en fait, on a appris le lendemain qu'il était mort de froid.
Oui, c'est des choses qui arrivent.
Moi, en fait, avec mes grands-parents, on était partis juste au magasin à la base faire 2-3 courses. Et on avait un SDF allongé devant le magasin avec son chien. Et comme c'était un peu la canicule, avec mon grand-père, on est parti leur donner 2 packs d'eau et des croquettes pour le chien.
En fin de séance, 3 impressions d'élèves écrites sur des petits post-it. C'est très bien, ça m'a plu et on peut même dire que ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans la vie sans que l'on s'en aperçoive. Il faut toujours y penser et le faire. Qu'est-ce que j'ai retenu? Que ça fait du bien à des personnes et au monde d'aider et que ça coûte rien de donner une petite chose et ça rend le monde meilleur. J'ai vraiment apprécié cette intervention. C'était très bien expliqué, nous avons eu des vidéos comme exemple et j'ai compris que la solidarité, c'est s'entraider en offrant, donnant des choses, nourriture, vêtements, etc. Mais pas que. Faire des sourires, cela réconforte les gens. Merci pour cette intervention. Ne manquez pas le second épisode de cette série dans notre émission de septembre. En musique, Zoufris Maracas ne savait pas sur quel pied danser. Jason Derulo, lui, le savait et nous emmenait avec Take You Dancing. Quant à Trombone Shorty, certainement malade d'avoir entendu tout ça, il nous a emmenés à St. James Infirmary.
Artisans d'un autre monde.
Découvrez une nouvelle émission chaque dernier samedi du mois à 11h et toutes nos émissions précédentes en podcast sur principeactif.net.
Artisans d'un autre monde.